C'est l'anniversaire du décès, il y a à peine 4 ans, du cardinal Paul-Émile Léger que j'ai eu la chance de très bien connaître au cours des années. Je l'ai souvent invité à des émissions. On a fait des émissions ici à Montréal, à Yaoundé, au Cameroun, où j'avais obtenu de lui une entrevue pour Rencontre, mais surtout de faire un film sur lui, intitulé « Un cardinal missionnaire qui a fait le tour du monde », ce qui m'a permis d'ailleurs de me promener au Cameroun pendant des semaines avec lui dans sa petite voiture. C'est un homme qui avait beaucoup changé. Je l'ai connu en 50, et jusqu'à la fin de ses jours, j'ai vu l'évolution de cet homme extraordinaire, exceptionnel. C'est aussi la fête de quelques saints aujourd'hui, dont Saint Didas d'Alcala, un franciscain, qui est mort en 1463. Et c'est à l'époque où les musulmans avaient envahi l'Andalousie et aussi les îles espagnoles des Canaries. Hein. En Espagne, il est connu sous le nom de San Diego, Saint Didas d'Alcala, franciscain. Et je voudrais commencer par un saint qui pourrait être le patron des commerçants. C'est un laïc qui est mort en l'an 1197, c'est pas d'aujourd'hui, un saint laïc, un commerçant en plus de ça. J'aurais aimé aussi vous parler de la cousine de Charles de Foucault, Anne-Marie Clémence de Foucault, qui est née en 1891 et qui est morte le 13 novembre 1947. C'était une petite sœur de l'Assomption, mais ce sera pour une autre année. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Donc, je commence par Saint Homobon, bonhomme, si vous voulez, curieux nom, hein, Homobonus, Homobon en français, ou bonhomme, presque. C'est une belle histoire. Il est très simple. C'est un commerçant de Crémone. Crémone, si je me souviens bien, c'était en Italie. C'est surtout, on le connaît, on connaît cette ville de Crémone. Pourquoi, n'est-ce pas? Parce qu'on y fabriquait des violons qui sont encore aujourd'hui très recherchés. C'était d'ailleurs là que travaillait Stradivarius. Crémone, c'est, disons, vaguement dans la région de Milan. Et notre saint d'aujourd'hui, donc, a vécu humblement. Il faisait le bien. Ses compatriotes n'ont pas compris ça avant sa mort. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient un saint parmi eux. Donc Homobonus, ou Homobon, appartenait à une famille assez connue, les Tuchingo. Ses parents lui avaient donné au baptême le nom de Homobon, Homobonus, homme bon, un nom qui s'est empressé de justifier parfaitement. C'est ce que disait le pape Innocent III. Et c'était l'évêque du lieu qui s'était rendu auprès d'Innocent III pour lui demander de le canoniser. Et ça lui avait été accordé à cet évêque par une lettre du 12 janvier 1199, donc 2 ans après la mort de notre commerçant. C'est vite fait, hein? Homobonus s'est marié. Il a continué le commerce de ses parents. Il était touché par une grâce très particulière, qui l'a entraîné en même temps à une vie de prière et de charité. Ça existe à Montréal. Je connais des couples comme ça qui mènent des vies de charité absolument phénoménales. C'est malheureusement très peu connu. Il faudrait qu'on vous les fasse connaître davantage. Heureusement que Radio Ville-Marie est là pour les inviter à certaines émissions comme celle de Gilbert Charron l'après-midi à 2 heures, où on fait la connaissance de ces gens remarquables. Notre Homobonus, ou homme bon, allait visiter les pauvres. Il leur laissait des aumônes remarquables, de grandes aumônes. Ça inquiétait sa femme, qui lui disait que d'observer les conseils de l'Évangile, c'était très bien, mais il fallait pas exagérer. Il priait continuellement et chaque nuit, il se rendait à l'église pour assister à matines. Bon, j'explique, parce que beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que c'est que ça, des matines. Ou quand j'étais bien jeune, à 18 ans, je suis entré à Saint-Benoît-du-Lac, je vous l'ai déjà dit, et on avait les matines. Les matines se célébraient à 4h20 du matin. Dans des monastères trappistes, ça se célèbre encore plus tôt, à 3h30 du matin. Dans des monastères bénédictins comme ceux de la Congrégation de la Pierre qui vire, en France, ça se célèbre à 2h15 la nuit. Mais ils se recouchent heureusement après. Chez les Chartreux, où j'ai vécu aussi, on célébrait les matines à 00h20. Il faut être décidé, n'est-ce pas? C'est quand on se réveille en pleine nuit, il fait très froid et c'est très dur. Mais c'est de prier la nuit pendant que le monde dort. Être une présence toute petite, toute menue, de quelques dizaines de moines ou de moniales, qui rendent gloire à Dieu, qui l'honore, et auprès duquel on intercède pour tout le monde qui dort. Ça a quelque chose d'assez touchant, et lui, il aimait ça, hein? Il sentait ça, prier la nuit. J'imagine que les matines, là où il était, devaient avoir lieu vers 4h probablement. Il restait d'ailleurs en oraison jusqu'à la première messe qui devait être célébrée à 5-6h. Et le 13 novembre 1197, il a écarté les bras au début du Gloria in Excelsis durant la messe. Il les a replacés, il s'est prosterné, puis au moment d'évangile, on dit qu'il ne s'est pas relevé. Il était mort. C'était le 13 novembre 1197, où des miracles, des guérisons, des délivrances de possédés qui ont attiré l'attention sur Homobon. Et comme je vous ai dit, son évêque a obtenu du Innocent III sa canonisation le 12 janvier 1199. Donc, à peine 1 an et 3 mois après sa mort. Hein. Ou 1 an et 2 mois même. Et dès 1202, donc 3 ans plus tard, le corps de notre saint a été transféré à l'église Saint-Guy, ou de l'église Saint-Guy plutôt, à la cathédrale de Crémone. C'est en Lombardie, n'est-ce pas? Crémone, c'est sur le Pô. Et maintenant, j'aimerais vous dire quelques mots du cardinal Léger. Le cardinal Paul-Émile Léger, comme je vous ai dit, je l'ai bien connu. Comme vous savez aussi, d'ailleurs, il est né à Valleyfield, le 25 avril 1904. Il a été baptisé, et puis il a fait sa première communion à Saint-Anicette, où ils habitaient, sa famille, ils habitaient au-dessus du commerce. Je crois que c'était une quincaillerie que tenait son père à Saint-Anicette. À 21 ans, il était séminariste. De 1925 à 1929, il avait fait ses études classiques au séminaire Sainte-Thérèse. Des études théologiques, évidemment, au Grand Séminaire de Montréal. Il a été ordonné prêtre le 25 mai, donc en 1929, au moment du crash épouvantable de la bourse. Il a été ordonné par Mgr Georges Gautier. Entré chez les Sulpiciens envoient toujours à Paris, à Issy-les-Moulineaux, en banlieue de Paris, les candidats. Or, comme il était jeune Sulpicien, il était agréé, donc, dans la compagnie Saint-Sulpice, c'est eux qui ont fondé Montréal, n'est-ce pas, sous la juridiction non seulement de Jérôme le Royer de la Dauversière, comme on l'a vu l'autre jour, mais de Monsieur Paul Chamédé de Maisonneuve, et de toute une association de chrétiens convaincus. Donc, membre de la compagnie de Saint-Sulpice, il fait sa solitude à Issy-les-Moulineaux. Il suit des cours de droit canon à l'Institut catholique de Paris. L'Institut catholique, je vous le rappelle, au cas où vous demanderiez ce que c'est, cet Institut catholique pourrait s'appeler l'Université catholique de Paris. C'est une université extrêmement importante, hein, beaucoup plus importante qu'on le croit, où il y a eu des découvertes scientifiques extrêmement remarquables qui ont été faites. Hein. Il était professeur aussi à Issy-les-Moulineaux. Et de 1933 à 1939, il était missionnaire au Japon. Il a reçu une invitation de son supérieur provincial qui lui a dit « Vous irez fonder un séminaire au Japon. Préparez votre départ, l'évêque de Fukuoka vous attend pour cet automne. » Alors, la congrégation de la propagande, ou si vous voulez, le ministère des missions. Moi, j'aimerais mieux appeler ça le ministère des missions que la congrégation de la propagande. Tous ces termes sont difficiles à comprendre pour beaucoup de gens. Une congrégation. Mais oui, c'est comme un ministère. Puis la propagande, c'est pas de la propagande dans le sens où on l'entend aujourd'hui. C'est propager l'évangile et la connaissance du Christ ressuscité. Donc, la congrégation de la propagande approuve cette fondation de séminaire intermédiaire et d'un séminaire de philosophie. En janvier 1938, et le cardinal Léger m'a déclaré plus tard, « J'ai fait un séjour de 6 ans au Japon et je dois dire que j'y ai laissé une partie de mon cœur. » C'est vrai que ça doit être extrêmement attachant, car moi, quand j'étais bibliothécaire au grand séminaire, au début des années 50, j'ai connu durant les vacances les séminaristes japonais, qui évidemment ne retournaient pas chez eux durant les vacances, alors je mangeais avec eux. Nous étions seuls dans ce grand séminaire. Et je les ai bien connus, plusieurs sont devenus évêques ou des prêtres remarquables. Et c'était vraiment charmant, ils étaient merveilleusement intelligents et souvent ils appartenaient à des familles de catholiques qui sont catholiques depuis Saint-François-Xavier, donc depuis des siècles. Paul-Émile Léger est devenu professeur au séminaire de philosophie de Montréal. Ce séminaire de philosophie, c'est quoi? C'était une maison d'enseignement de Sulpicien où on enseignait la philo 1 et 2 qui terminait le cours classique avant l'entrée au besoin à l'université ou au grand séminaire. Des professeurs là de 39 à 40, donc au début de la guerre. Et puis, des professeurs de sociologie. Donc, il s'intéressait de plus en plus aux questions sociales, et on le verra tout à l'heure. Et là, Mgr Paul-Émile Léger, qui a été nommé vicaire général, prend le titre donc de Monseigneur, mais pas un Monseigneur évêque, Monseigneur simplement un titre dont on affuble un prêtre qui se veut simple et pauvre. On l'affuble de ce titre un peu. Moi, je trouve ça un peu malheureux jusqu'à un certain point. Mais enfin, ça traîne encore dans l'Église, les honneurs. Les honneurs. Pourquoi des honneurs, je me le demande. Enfin, il faut que je retienne ma langue. Donc, en 1940, Mgr Paul-Émile Léger, vicaire général de son diocèse d'origine, Valleyfield, devenait en janvier 41 curé de la paroisse cathédrale de Valleyfield. Je me souviens de l'avoir entendu à cette époque, probablement vers 1946, à la radio, prêchant. Il prêchait admirablement bien. C'était superbe ce qu'il disait, se référant à des grands auteurs, émaillant son sermon d'éléments qui tranchaient sur tout ce qu'on entendait ailleurs. Il était saisissant et on l'écoutait avec beaucoup d'intérêt. Son confessionnal à la cathédrale de Valleyfield était très fréquenté. Les ouvriers très simples pouvaient avoir recours à sa sollicitude, comme on dit. En 41, Mgr Léger a prêché justement un carême à l'église Notre-Dame de Montréal. Mais c'est peut-être en 41 que je l'ai entendu à la radio, c'est fort possible. Et le 17 mars 1941, d'ailleurs, un journaliste écrivait « Un auditoire encore plus considérable qu'aux 2 sermons précédents remplissait hier Notre-Dame, laissant guère de sièges, même dans les tribunes. » Vous savez que c'est une immense église, Notre-Dame, la plus grande église d'Amérique du Nord. Mais il la remplissait, déjà. Puis il est devenu recteur du Collège canadien en 1947. Qu'est-ce que c'est encore que le Collège canadien? Je vous explique au cas où vous ne le seriez pas. C'est une résidence qui rassemble tous les jeunes prêtres canadiens qui étudient à Rome et qui étudient en divers endroits. Ils peuvent suivre des cours chez les jésuites à l'université dite grégorienne ou dans d'autres maisons d'enseignement universitaires tenues par des dominicains ou des franciscains, etc. Le 21 novembre 1948, Mgr Léger organise les fêtes du 60e anniversaire de fondation de cette institution. Et c'est Armour Landry, dont on parlait beaucoup à l'époque, qui disait sans en avoir le titre, Mgr Paul-Émile Léger a rempli, pendant tout le temps qu'il passe au Collège canadien, les fonctions d'ambassadeur ecclésiastique du Canada. Et déjà, sa personnalité était remarquée à Rome, très remarquée, surtout auprès de Pie XII. Vous savez que Pie XII lui avait d'ailleurs remis son anneau pastoral, anneau tout à fait dans le genre de l'époque, c'est-à-dire une immense pierre précieuse entourée d'innombrables diamants. Que les choses ont changé. Un évêque n'oserait plus porter ça aujourd'hui. Vous savez que les choses ont énormément changé, tant dans les titres, les ornements, les honneurs, ces bagues-là, et tout ça. C'est merveilleux de penser que l'Église s'est réformée pour le mieux, dans le sens de la simplicité, beaucoup plus près de l'Évangile, beaucoup plus soucieuse des pauvres. Et en 1950, le 25 mars, je me souviens, j'étais à Rome, et Radio Vatican a annoncé que le pape Pie XII avait nommé Mgr Paul-Émile Léger archevêque de Montréal. Il a reçu la consécration épiscopale des mains du cardinal Piazza, qui était secrétaire de la consistoriale. La consistoriale, je vous explique aussi ce que c'est. C'est une congrégation encore, si vous voulez, un ministère qui nomme les évêques. Et il a donc été consacré évêque, ou on dit aujourd'hui ordonné évêque, le 26 avril 1950, dans la basilique Sainte-Marie des Anges aux Thermes. Et rappelons ici que cette église va lui être assignée, car lors du consistoire de 1953, il a été nommé, donc 3 ans après être devenu archevêque de Montréal, il a été nommé cardinal, et les cardinaux ont une paroisse qui leur est assignée à Rome. C'est une tradition. Donc, Mgr Paul-Émile Léger a pris possession du siège épiscopal de Montréal le 16 mai 1950. Moi, j'étais encore en Europe à ce moment-là. Et le 2 mai 1951, il a reçu le pallium. C'est le pallium, c'est une espèce de collier de laine fait avec des agneaux qui sont offerts symboliquement à Dieu. Et le pallium est un insigne qui est donné aux évêques depuis très, 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 très longtemps. Ça date des débuts de l'Église. Le 12 janvier 1953, il a été fait donc cardinal prêtre par le pape Pie XII. Et quand il a été nommé par Radio Vatican à Rome et on a annoncé que Pie XII l'avait nommé archevêque de Montréal, je me souviens, j'étais dans la rue ce jour-là et un Québécois, on dit un Canadien dans le temps, il est venu vers moi, puis m'a annoncé la nouvelle, et je n'oublierai jamais cet instant-là, de surprise, d'apprendre que c'était Mgr Léger que j'admirais, que je trouvais intéressant comme prédicateur. D'ailleurs, c'est Pie XII qui a déjà fait des éloges que l'on peut retenir, en disant au cardinal Léger, « Vénérables frères et chers fils, voici donc le grand diocèse de Montréal représenté au Sacré Collège. La chrétienté florissante du Canada français, elle a bien diminué depuis ce temps-là, la chrétienté florissante du Canada français peut être fière du nouveau prince de l'Église. » On donne des titres comme ça, le prince de l'Église. Je vous lis ça parce que vous allez voir combien les choses ont changé. Donc peut-être fier du nouveau prince de l'Église qui lui est donné. Nous connaissons les qualités de cœur de l'archevêque de Montréal. Il avait déclaré dès son élection que les petits, les humbles, les malades, les travailleurs seraient la portion choisie de son troupeau et il n'a pas déçu leur attente. Et c'est vrai, le foyer de charité, l'hôpital du cardinal qui est devenu ce centre hospitalier de Saint-Charles-Borromée dont je vous ai parlé quelques fois et je vous incite à aller à la messe là. La messe est à 10h15 le dimanche matin dans cet ancien hôpital du cardinal. Allez-y pendant qu'ils sont encore là. Il est possible que le gouvernement les déménage. Allez-y, dépêchez-vous. 66 Est, boulevard René Lévesque, donc tout près du boulevard Saint-Laurent. Vous entrez là, vous inscrivez votre nom, vous prenez un ascenseur, vous montez au 3e et vous y êtes. Et c'est merveilleux. C'est mieux d'arriver à 10h moins 5, 10h, pour aider quelques malades. La messe commence à 10h et quart. Pie XII continue dans sa lettre. C'est un père qu'ils ont trouvé en lui. Un père qui se penche sur leur misère, qui vient lui-même à leur chevet, qui souffre de leur douleur et cherche tous les moyens de les soulager. Le foyer de charité qu'il a fondé est un symbole et un signe tangible de l'amour ardent qui l'anime. À la suite du divin maître, il manifeste une prédilection pour la miséricorde. Il veut être bon samaritain pour être bon pasteur. Comment ne pas faire allusion à la dévotion mariale qui a inspiré la campagne du chapelet et suscité la ferveur enthousiaste de tant de cœurs généreux? Ça nous rappelle qu'il récitait le chapelet et c'était suivi par des dizaines de milliers de personnes qui priaient avec lui, dans leur maison, avec leurs enfants. C'est une toute autre époque. On n'a pas idée, les enfants ne savent même pas ce que c'est qu'un chapelet aujourd'hui. Ne savent même pas ce qui se passe dans les églises. Très souvent. Pas tous, mais très souvent. De plus en plus souvent. Et on veut d'ailleurs obtenir des écoles uniformément laïques où on n'enseignerait pour ainsi dire pas la religion, et les enfants connaîtraient encore moins. Comme si ce serait une excellente chose. J'ai peine à comprendre. De 1967 à 1974, on sait que l'archevêque de Montréal, ayant démissionné comme archevêque, le 9 novembre 1967, il a quitté Montréal pour le Cameroun. Le 11 décembre, donc un mois plus tard, il est revenu à Montréal en 1974. Il a créé la fondation Jules et Paul-Émile Léger. Jules, c'est son frère, qui était ambassadeur. Et cette fondation a pour mission, d'une façon générale, de coordonner, de soutenir matériellement et spirituellement des activités ou des œuvres éducationnelles, religieuses, philanthropiques, humanitaires ou de bienfaisance, tant ici qu'à l'étranger. Or, la fondation Jules et Paul-Émile Léger a des filiales. Vous savez qu'il y a 5 filiales. Peut-être les connaissez-vous pas toutes, mais si je vous donne les noms, vous allez vous en souvenir. Le cardinal Léger et ses œuvres, la Croix d'Or, l'Institut cardinal Léger contre la lèpre, les partenaires du cardinal, les secours aux aînés. Quand j'ai connu le cardinal Léger, j'ai connu un homme qui était très simple et en même temps très compliqué. Presque prétentieux, dirais-je, et en même temps très direct, très volontaire et très désireux de faire ce qu'il y a de mieux. Le cardinal Léger est décédé le 13 novembre 91, il y a 4 ans. Et je continue donc à vous raconter un peu comment j'ai connu le cardinal Léger et comment j'ai su l'apprécier petit à petit davantage. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous signale que le 31 octobre 1961, il avait été nommé membre de la commission centrale préparatoire au Concile Vatican II. Et au Concile Vatican II, il a été grandement remarqué. Remarqué, mais appuyé par M. André Nau, comme théologien qui l'a conseillé. Et ses déclarations ont été tellement écoutées, appréciées, qu'il est sorti de ce Concile Vatican II comme un homme nouveau. Pas totalement nouveau encore, mais un homme qui était vraiment de plus en plus de son temps, dans l'esprit même du Concile. Et j'ai eu l'occasion, étant réalisateur à la télévision de Radio-Canada à l'époque, à la suite du Concile, j'ai fait une émission, donc, en tenant compte des principales déclarations qu'il avait faites, en interviewant aussi, et en faisant un montage qui l'avait rendu très fier, très heureux, et son témoignage d'appréciation m'avait profondément touché. Nous sommes devenus presque des amis. Et petit à petit, je l'ai invité à d'autres émissions. Je l'ai invité à rencontre 3 fois. J'ai fait ce film en 1970-71 au Cameroun, un cardinal missionnaire, et j'ai appris à le connaître davantage, toujours de mieux en mieux. Très simple, nous arrivions dans des centres où il y avait des lépreux, et on nous recevait à manger. Il y avait là de la nourriture plus ou moins exotique, comme des potages au beurre d'arachide ou aux arachides, et des choses très curieuses, du manioc. Alors, c'est lui qui me servait. Il me disait, non, restez assis, vous ne sauriez pas quoi choisir, je vais vous servir. Et il me servait très gentiment, hein, et s'il n'y avait aucune ostentation là-dedans, puisque il n'y avait personne pour remarquer ce qu'il faisait. En voiture, avec lui, nous étions seuls. Il aimait la vitesse, il conduisait assez rapidement sur les routes de terre du Cameroun. Parfois, j'avais un peu peur, mais il était très sympathique, son béret sur la tête, grand béret, une soutane kaki, sans honneur, sans croix pectorale, et le sourire aux lèvres, très enthousiaste. Nous promenions le soir, alors que le soleil se couchait sur le Cameroun, et j'ai des photos de ça. Ça me touche beaucoup quand je les regarde, car nous avions des conversations spirituelles, des conversations sur l'avenir de l'Église, et il revenait souvent sur les déclarations qu'il avait faites lors d'une prédication, extrêmement belle qu'il avait faite au Carême 1967 à Radio-Canada dans le cadre de la série télévisée Le Jour du Seigneur. J'en étais le réalisateur d'ailleurs. Nous avions fait ça dans la chapelle du Collège Saint-Laurent. Et je me souviens qu'il avait déclaré au sujet du problème de la faim dans le monde. Nous célébrons ce dimanche sous le signe du pain et de la joie. On peut se demander quelle relation existe entre ces deux réalités, dont la première appartient au monde matériel et la seconde au monde spirituel. Et cependant, il suffit d'un tout petit moment de réflexion pour comprendre que l'une n'existe pas sans l'autre. Un pain mangé sans joie est amer au palais, et une joie qui ne serait pas alimentée, soutenue par le pain, serait précaire, fragile, éphémère. Écoutez bien ce qu'il dit en la suite. Je ne vous dis pas tout le sermon, je ne fais que le début, ça. Le terrible danger qui guette le chrétien, qui nous guette tous en ce domaine, c'est la routine. Nous savons ces choses. Nous les savons au point de ne plus y penser. Tout intérêt sur ces sujets s'est évaporé et nous vivons, excusez l'expression, dans le pain par-dessus la tête, sans éprouver de joie. Et ça, il déclare ça à la veille de sa démission. Hein. Il faudrait que nous allions distribuer du pain aux affamés de l'Inde ou du Pakistan pour découvrir dans les yeux déjà éteints et hagards les reflets de l'immense incendie de joie que peut allumer le pain dans le cœur des désespérés. Il y a une part de démission devant une Église qui lui échappe, évidemment. On l'a fait remarquer en 1991, c'est Denise Robillard qui a fait une thèse, La pensée de Paul-Émile Léger, une thèse de doctorat, où elle aborde cette question avec un profond esprit critique, juste, car c'est une femme profondément chrétienne, mais elle sait nuancer les choses et comprendre l'évolution du cardinal. Lors du même carême, d'ailleurs, le cardinal déclarait « Le Seigneur ressuscité, c'était sa prédication du jour de Pâques, le Seigneur ressuscité connaît le nom propre de chaque homme, parce qu'il aime chaque homme personnellement. L'appel qu'il nous lance ce matin doit normalement trouver une résonance profonde dans le cœur de chacun de nous. Pensons à Marie de Magdala, qui eut le privilège de voir le Seigneur aux premières heures de Pâques. Le Seigneur lui dit tout simplement, « Marie !» et elle reconnaît aussitôt cette voix chargée d'amour qui apaise son cœur inquiet. Pensons à Pierre, à qui Jésus posera la question que tout homme adresse à son frère, à son ami, pour faire éclater la vérité et éviter toute ambiguïté. « Pierre, m'aimes-tu ?» Car ne nous y trompons pas, le sentiment religieux doit reposer sur le roc solide de la foi. Autrement, il devient une évasion et une fausse revalorisation de la puissance affective qui se trouve en nous. Et le cardinal Léger ajoutait, toujours à la veille de son annonce et de son départ, « Découvrir Jésus, c'est entrer dans un monde plein de merveilles, dont la plus belle consiste à découvrir que Dieu nous aime personnellement. » Les gens qui pensent que le cardinal Léger n'avait rien à dire se trompent. Je prends ça dans ce beau livre qu'il a publié à la suite du carême que nous avions télédiffusé à Radio-Canada et dont j'ai été heureusement le réalisateur. Ce petit livre s'appelle « Paroles de vie pour le peuple de Dieu ». C'était publié chez Fides. C'est pas très long, mais c'est magnifique et c'est fascinant. En 1985, Monsieur Rozvorovski avait voulu faire une émission à l'occasion du 15e anniversaire de l'émission Rencontre que je réalisais à Radio-Canada, Rencontre, non pas Rencontre spirituelle, mais Rencontre tout court. Et il m'avait adressé un télégramme, et je vous le lis car c'est, vous voyez la délicatesse de cet homme, et le grand changement, car il est devenu, à mon avis, un saint. Monsieur Beaugrand Champagne, depuis 15 ans, vous animez l'écran de nos téléviseurs. Vos amis profitent de la circonstance pour vous exprimer leur admiration pour la qualité de vos émissions et vous offrir leurs meilleurs vœux. Puis-je ajouter à ce concert d'éloges une note personnelle? Vous avez toujours ouvert vos studios pour permettre aux missionnaires du tiers-monde, donc à lui-même, de plaider la cause des pauvres. Merci pour cette précieuse collaboration. Et soyez encore sur les ondes pour de nombreuses années. Le cardinal Paul-Émile Léger. Et 2 ans plus tard, il m'écrivait à la fin de janvier 87. Enfin, me voici en retard avec cette gerbe de vœux fanés. des vœux fanés à la fin de janvier. Il aurait voulu m'écrire à Noël. La santé n'est pas brillante et j'ai été hospitalisé. Particulièrement depuis Noël. Ça va mieux, mais encore des ratés de moteur. Continuez cet apostolat de rencontre. C'est sympathique. Il parle de lui-même. Il se prépare à la mort. Il voit que son corps s'en va. Et en 88, l'année suivante, il avait donné une conférence magistrale à l'auberge de l'oratoire Saint-Joseph et j'avais pris des notes. Et il disait, la vieillesse est un don qui peut être bien embarrassant. D'abord pour soi, mais surtout pour les autres. Parce qu'il avait expliqué que c'était un don. Car il y a un grand dépouillement dans la vieillesse. Une façon de se centrer sur Dieu, qui est tout l'essentiel. Il disait aussi, l'universalité de l'Église n'est apparue à la face du monde que tout récemment. Et ceci plus particulièrement dans l'éclat du Concile Vatican II. Et c'est vrai que ces images que nous avons vues à la télévision, avec tous ces hommes qui venaient de partout, et ces foules immenses d'hommes, de femmes et d'enfants, c'était tellement saisissant. Si nous voulons vivre le plan divin, ajoutait le cardinal Léger, il faut que nous, chrétiens, nous incluons le sens de la création, c'est-à-dire qu'il faut que nous voyions à nous insérer dans l'esprit de l'encyclique Populorum Progressio de Paul VI et de la récente encyclique de Jean-Paul II. Il faut qu'on se rende compte que notre foi est trop embarrassée de pratiques de piété. Le cardinal qui dit que notre foi est trop embarrassée de pratiques de piété, comme il a raison. Toutes ces petites pratiques. Et on ne va pas à la messe. On récite encore, je l'ai vu dernièrement, le chapelet pendant la messe. où on lit autre chose, le semainier paroissial. Sait-on ce qu'on manque? Il disait aussi ce soir-là, le monde est rempli d'absurdités. Or, nous avons les moyens nécessaires pour guérir l'ensemble des problèmes de l'humanité. C'est là l'incroyable paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Le stockage de nourriture est invraisemblable. Il disait aussi, mais nous n'avons même pas le courage de nous mettre à la tâche. Nous ne voulons pas nous mettre les mains à la glaise. Nous nous contentons d'établir des plans, de songer, de penser à faire quelque chose, comme il a raison. Vous savez, il a dit ça en 88. J'avais pris d'autres notes. 23 millions de lépreux, un vrai camp de lépreux est un cimetière ressuscité. Quoi faire devant la condition humaine? Le mystère ou l'absurdité? Il faut voir à un développement pour tous les hommes et pour chaque homme. Il faut voir au développement humain, spirituel, intellectuel de l'homme. Puis il disait, l'homme est sauvé par la croix. Ce qu'il veut dire, c'est que si l'on porte notre croix, nous allons au-devant des hommes qui sont perdus et nous les sauvons, comme le Christ sur la croix, vers lequel se tourne le bon larron. Il le sauve. Il lui donne cette espérance, ce goût de vivre éternellement. Il disait aussi, il est passé en faisant le bien. S'il n'a pas tendu la main aux malheureux, s'il n'a pas aidé les gens qui sont dans la misère, il faut rendre ce monde moins paradoxal. Il disait aussi, l'Église doit être le signe de l'onction de Dieu dans le monde. Enfin, j'ajoute quelques paroles, toujours du cardinal Léger, en 88. Trop souvent, notre foi repose sur des sentiments, mais non pas sur cette quête du sens, cette quête de Dieu. Quel grand homme! Je m'émerveille en relisant ces notes que j'avais prises. En créant le monde, Dieu est sorti en quelque sorte de lui-même. Il ne pouvait pas, il ne pourra jamais donner au créé les attributs de l'incréé. Mais en s'incarnant, il a réuni les deux. Il en a fait une autre création qui communique avec l'ineffable. Nous connaîtrons Dieu comme Dieu nous connaît. N'oubliez jamais qu'un amour de Dieu qui n'est pas exprimé dans l'amour du prochain est un amour lourd à porter. Il terminait en disant, le monde a besoin de Dieu, de cette recherche de Dieu. Le cardinal Léger est décédé le 13 novembre 1991, et dans un testament, il disait à la fin, et ça s'adresse à nous, et je suis sûr qu'il voudrait que je le répète pour qu'on l'entende bien, du fond du cœur, je tiens à vous remercier parce que seul, il aurait été impossible d'accomplir tout ce que j'ai essayé de faire. Évidemment, je ne suis pas naïf au point de croire que j'ai changé le monde, mais en tant qu'individu, j'ai essayé d'atteindre cet idéal qui est d'apporter à l'humanité une parcelle de sécurité, de paix et de joie. De tout cœur, je vous bénis. Et maintenant, je passe brièvement quelques minutes, à Saint Didas d'Alcala, ce franciscain décédé en 1463, à l'époque où les musulmans, je vous l'ai dit, avaient envahi l'Andalousie, donc une province de l'Espagne, et aussi les Canaries, les îles Canaries dans l'Atlantique appartiennent à l'Espagne. Il est né à la fin des années 1300. On n'est pas sûr exactement de l'année. Donc il est né au 14e siècle. Il est mort au 15e. De parents obscurs. Il est né de parents obscurs. Il est né à Saint-Nicolas. C'est dans le diocèse de Séville, en Andalousie. On l'a baptisé Jacques, c'est-à-dire Diego en espagnol, et Didacus en latin, ce qui est, c'est devenu Didas en français. Ça pourrait être Jacques, je ne sais pas pourquoi. Adolescent, on choisit une vie retirée près de l'église de Saint-Nicolas, en cultivant un jardin, en fabriquant des petits objets. qu'il donnait à ses bienfaiteurs. Il avait trouvé un jour sur la route une bourse pleine. Il est retourné à Saint-Nicolas afin d'appeler quelqu'un qui s'en est chargé de la remettre à celui qui l'avait perdue. Il était très honnête, comme vous voyez. Il avait un immense désir d'être moine franciscain. Il arrive souvent que quand on veut fortement quelque chose, on l'obtient. Alors il est entré chez les franciscains d'Arizafa, près de Cordoue. Vers 1440, on l'a envoyé dans l'île des Canaries de Fuerteventura. C'est l'une des sept îles des Canaries. Il a été nommé supérieur. Pourtant, c'était un simple frère convert, hein? Un frère laid, comme on dit, L-A-I. Hein? Alors, il a converti de nombreux musulmans. Puis, il a vogué vers la Grande Canarie, la plus grande île, où il y avait beaucoup plus de musulmans encore. Parce qu'il souhaitait, au besoin, si ça arrivait, d'être martyr. Une tempête, puis le mauvais vouloir de l'équipage, qui tenait pas tellement à aller là, l'ont empêché de débarquer. Alors il est venu dans son île, il a ravitaillé la population qui souffrait de famine, puis il a travaillé dur dans les champs avec ses frères, et en 1449, les supérieurs l'ont rappelé en Espagne. En 1450, après avoir passé donc 9 ans dans les Canaries, il était à Rome pour l'année jubilaire et la canonisation de Saint Bernardin de Sienne, dont je vous ai parlé le 22 mai dernier. Sa fête, c'est le 20 mai, hein? Saint Bernardin de Sienne. Et à cause de l'affluence, les vivres étaient rares, beaucoup de pèlerins sont tombés malades, alors notre frère Didas, au couvent de la Araceli, qui est très réputé à Rome, a fait des merveilles pour soulager tout le monde. Puis là, il est revenu à Séville. Il a passé en 1456 à Alcala, qui est un autre couvent franciscain important, où il devait mourir le 12 novembre 1463. Et pendant sa dernière maladie, au sortir d'une sorte d'extase, il répétait « Oh, quelles sont suaves ces fleurs du paradis !» Il a demandé qu'on l'enterre avec l'habit le plus usé qu'on pouvait trouver. Ses dernières paroles furent adressées à son crucifix. Il y avait là des réminiscences de l'hymne de Saint Fortunat à la Sainte-Croix qu'on connaît bien. On chantait ça autrefois, hein, les gens âgés. « Dulce lignum, dulce sclavo », ce qui veut dire « doux bois » ou « doux bois de la croix », hein, « douce croix » au fond. Et dulce sclavo, c'est les doux clous. C'est curieux qu'on s'adresse à ces instruments de torture en les appréciant et les aimant, dans ce désir de vouloir s'identifier à Jésus. Il s'attendrissait d'ailleurs, notre frère Didas, avec amour sur la douceur de cet arbre de vie qu'est la croix, hein? La douceur de ses clous, la douceur de ce poids qu'il soutenait, et qui allait faire chavirer, hein, on le sait, des milliards d'hommes et de femmes depuis 2000 ans, qui ont compris que c'est par l'amour que l'on est sauvé. On est sauvé, hein? Par l'amour, et non pas par les souffrances en tant que telles. Mais c'était un grand mortifié que notre Didas, Saint Didas d'Alcala. Il a paru après sa mort fort beau, son corps est resté souple, et le roi de Castille lui-même est venu voir 15 jours après le décès. Il a demandé qu'on assoie ce noble cadavre, comme on dit dans les vieux textes, qui semblait parfumé. L'archevêque de Tolède était dans l'admiration, et aussi 2 rabbins juifs, de nombreux musulmans sont venus regarder ce corps qui restait incorruptible. Des grâces ont été obtenues. Bien d'autres guérisons. Des faveurs spirituelles ont été obtenues aussi par l'intercession de notre frère. Philippe II a demandé en 1563 à Pie IV la canonisation. La requête fut poursuivie sous Pie V et Grégoire XIII. Et finalement, elle aboutit sous Pie V, pape franciscain, en 1588. Et voilà qu'avec tous ces miracles et la piété profonde de cet homme, ce grand franciscain a été canonisé, lui qui était un simple frère convert.